Maintenant, nous laissons la parole à Stefano Zaccheroli qui va nous présenter Debian.
Merci. Donc, bon après-midi à tous. Merci pour l'invitation ici. Donc, il vient de me faire noter effectivement que les titres de l'exposé tombent bien avec l'anniversaire de Crance. Donc, je vais vous présenter un projet qui est un peu plus vieux que Crance, mais pas tellement. Juste quelques mots sur moi, donc sur pourquoi je suis ici à vous parler de Debian. Donc maintenant, dans ma vie professionnelle, je suis maître de conf en informatique à Paris 7. Donc j'enseigne à des étudiants en général l'informatique et très souvent des technologies qui sont spécifiques du logiciel libre. Et dans ma deuxième vie, en gros, j'ai été un développeur Debian depuis, ça fait désormais 13 ans. J'ai commencé quand j'étais un étudiant d'informatique à Bologne, en Italie. J'étais un développeur Debian justement à partir de 2001, je pense, et j'étais chef du projet Debian, donc le leader du projet, pendant 3 ans, entre 2010 et 2013. Donc je suis un retraité, un très jeune retraité maintenant, mais je continue à être partie active du projet Debian en tant que développeur. Donc, dans cet après-midi, je vais vous parler de Debian en général, de plusieurs aspects de Debian. Donc, une partie technologique et technique, pas trop poussée, c'est pas le but. Une partie un peu sociale, donc les projets, comment nous sommes organisés et quelle est la vision derrière Debian. Okay. Mais avant de faire cela, juste quelques mots sur ma notion des logiciels libres à moi. Okay. Donc, je pense que vous connaissez déjà tous les notions de base de logiciel libre. Peut-être, très probablement, vous avez déjà vu plusieurs manières de définir le logiciel libre. Donc, il y a un point de vue un peu plus liberté, basé sur les droits que, comme utilisateur, vous avez, qui est la vision du logiciel libre, proprement dit. Vous avez la vision un peu plus open source, qui c'est plus une vision, disons, génie logiciel, dans laquelle on vous dit, les logiciels open source, c'est quelque chose qui donne des libertés pour obtenir un logiciel qui est bien fait. Okay. Donc, une vision qui vous dit qu'il y a une méthodologie de développement supérieure aux autres. Je pense que la vision qui nous aide à comprendre quand quelque chose est de logiciel libre ou pas est la vision qui vous parle d'où est-ce que vous êtes en contrôle ou pas de votre vie, de votre vie digitale, de votre vie numérique. Okay. Donc, il y a une citation ici que je ne vais pas vous lire, mais qui vient d'un livre qui est pas mal du tout, que je vous conseille, qui est Makers, de Cory Doctorow, un auteur canadien, des romans en gros sur science fiction, mais basé sur les mondes technologiques d'aujourd'hui. Okay. Et là, il y a une notion très intéressante. Donc, toute l'histoire se déroule autour des imprimantes 3D, okay, qui sont produites par une boîte qui, en l'occurrence, c'est Disney, okay, qui par contre sont très, très, très verrouillées. Donc, vous pouvez acheter des imprimantes 3D, mais les imprimantes vont seulement imprimer les choses que Disney prévoit de vous faire imprimer. Donc aujourd'hui, ça peut être un personnage d'un film qu'ils veulent vraiment que vous allez voir. Okay. Demain, c'est fini, c'est plus l'époque de ces personnages, on passe à un autre personnage. Et donc, il y a un dialogue très intéressant entre les personnages principaux qui vous dit en gros que la liberté que vous avez dans la vie numérique doit être la même que vous avez dans la vie physique. Donc, si vous avez un marteau, okay, avec ces marteaux, vous pouvez faire absolument ce que vous voulez. Vous pouvez l'utiliser comme il était prévu, okay, ou alors penser de l'utiliser de façon complètement différente. Si vous avez un four, ou un frigo, ou quelque chose qui commence à avoir du logiciel, vous devez être libre d'étudier comment cet objet marche, à la limite de changer comment il marche. Si vous n'êtes pas capable, pas grave, vous devez être capable de trouver quelqu'un qui a les compétences pour changer comment l'objet marche, pour l'adapter à vos besoins. Okay. Donc, je vous encourage à penser aux computations qui vous regardent. Okay. Est-ce que vous êtes en train d'utiliser des réseaux sociaux? Est-ce que vous êtes en train d'envoyer un mail? Est-ce que simplement vous voulez commenter sur un blog? Est-ce que vous avez des dispositifs médicaux sur vous, des pacemakers par exemple, sur lesquels il y a du logiciel? Et donc, c'est toujours de la computation pour vous. Est-ce que sur ces computations, vous êtes maître? Okay. Si oui, alors vous êtes en charge, vous avez les contrôles de la computation. Et donc, vous avez quelque chose qui fait du logiciel libre, qui est du logiciel libre. Si ce n'est pas le cas, vous êtes un peu esclave de qui a développé ce logiciel et vous en prenez tous les risques qui sont associés. Okay? Donc pour moi, les logiciels libres aujourd'hui, c'est vraiment ça, être un maître de nos vies numériques. Donc, vous pouvez m'interrompre dès que vous avez des questions. J'aime bien. Et désolé pour les transparents en anglais, mais bon, l'exposé, évidemment, va être en français. Alors, on avance un peu. Étant donné ma notion que je vous propose de logiciel libre, on parle un peu de ce que c'est une distribution. Debian, on dit que c'est une distribution de logiciels libres. Okay. Alors, parmi vous, il y a des très jeunes par rapport à la vie de logiciels libres. Il y a des gens un peu moins jeunes comme moi. Okay. Mais si vous avez commencé à utiliser le logiciel libre il y a 15 ou 20 ans, pour tester, pour utiliser une application, il y avait une sorte de recette magique, surtout pour des utilisateurs qui n'étaient pas des développeurs, qui prévoyait les étapes que vous voyez sur ces transparents. Vous avez un logiciel que vous voulez tester, super. Vous téléchargez ce qu'on appelle un tarball. Déjà, un tarball, c'est un mot un peu trop clair à l'époque pour moi. Okay. Et après, vous aviez une recette magique qui c'était configure, make, etc. Et à chaque étape, bah, vous aviez potentiellement des problèmes. Okay. Donc, configure, normalement, ça ne marchait pas car il vous manquait des dépendances. Donc, d'autres logiciels qu'il vous faut pour compiler les logiciels que vous voulez utiliser. Et à chaque étape, vous pouvez avoir un problème. Okay. Donc maintenant, si vous prenez un système d'exploitation complet comme Debian, il est formé par quelque chose comme 17 000, aujourd'hui presque 20 000 paquets sources, okay, 20 000 logiciels différents, disons, avec un taux de changement qui arrive jusqu'à quelque chose comme 3 000 releases par mois. Donc imaginez de devoir faire ces étapes-là, 3 000 fois par mois, ben, ça ne passe pas à l'échelle. Vous allez avoir autre chose à faire avec votre temps que passer le temps à recompiler tous les logiciels. Donc, l'idée de distribution est de rendre simple les cycles de vie du logiciel pour vous. Okay? Donc, aujourd'hui, c'est une idée qui est très à la mode, qu'on connaît très bien, car normalement, dans nos poches, nous avons tous des téléphones ou alors sous notre canapé, nous avons des tablettes où vous avez des App Store. Okay? La notion des App Store, une notion qui a été inventée il y a 20 ans, un peu plus, 25, par les systèmes d'exploitation BSD. Okay. Et l'idée, c'était de dire, bah, il y a des développeurs de logiciels, qui on appelle dans notre langage les upstream, donc les gens qui produisent du logiciel, les développeurs, okay, qui vous voyez là sur la gauche, c'est transparent. Vous avez des utilisateurs, qui vous voyez sur la droite, okay, qui sont les personnes qui veulent utiliser le logiciel. Et vous avez au milieu les distributeurs, qui s'occupent de vous rendre la vie simple en termes d'usage de ce logiciel. Donc ce sont eux qui préparent les logiciels, ils les amalgament pour les faire travailler bien ensemble. Chaque fois qu'il y a une nouvelle version, une nouvelle release, ils s'occupent de la tester, de l'intégrer avec les autres logiciels qui font la distribution, okay, et de vous la rendre accessible. Et disons que la killer feature, donc la caractéristique principale qui vous est offerte par des distributions, sont les gestionnaires des paquets, donc si vous voulez l'App Store, dans la terminologie d'aujourd'hui, et qui sont des applications qui vous permettent très simplement d'obtenir de logiciels, un nouveau paquet logiciel, okay, qui vous permet de les mettre à jour ou de les retirer, de les supprimer de votre machine. Okay, donc les distributions font ça, et en plus, ils font aussi normalement la procédure d'installation. Donc dès que vous achetez un téléphone, normalement il y a déjà un système d'exploitation installé. Dès que vous achetez un ordinateur, pareil, normalement ce n'est pas de logiciel libre. Okay. Donc les distributions, ils font aussi la procédure d'installation. Ils cherchent de vous rendre simple l'installation d'un logiciel, du logiciel libre sur votre machine. Donc, qu'est-ce que c'est Debian ? Une distribution. C'est un objet de ce type-là, okay, parmi beaucoup d'autres. Et je vais chercher de vous expliquer qu'est-ce qu'il y a de différent entre Debian et les autres. Ça, c'est les messages de création de Debian qui datent désormais de plus que 20 ans. Donc, il a été inventé par Ian Maddock, qui était un étudiant alors, à l'université, je pense que c'était à l'université Indiana. J'ai oublié le nom de l'université, mais c'était quelqu'un qui avait à peu près votre âge. Okay, qu'il décide, il regarde un peu autour de lui et il dit, bah, nous avons un problème, le logiciel libre est super, mais nous avons du mal à donner le logiciel libre aux gens. Donc, pour résoudre ces problèmes, bah, en gros, il invente Debian. Et dans les messages que vous trouvez encore en ligne dans les archives du newsgroup Camp OS Linux Development, vous trouvez les motivations qui l'ont poussé à créer Debian. Et les motivations sont encore aujourd'hui très actuelles, je trouve. Alors l'idée de base, c'était bah, le logiciel libre traîne un peu par rapport au logiciel propriétaire. On veut gagner la bataille sur les marchés. Donc on fait Debian pour rendre gagnant le logiciel libre sur les marchés. On n'y est pas encore arrivé, mais on a amélioré pas mal. Et il voulait rendre le logiciel libre simple à installer. Alors, la notion de simplicité d'installation à l'époque avait absolument rien à voir avec ce que nous considérons simple aujourd'hui. Okay. Aujourd'hui, c'est vraiment, vous prenez un clé USB ou un DVD, si vous avez encore un lecteur DVD, et 5 minutes plus tard, vous avez installé un système d'exploitation libre sur votre machine. Bah, à l'époque, ce n'était pas comme ça. Donc, on avait des floppy, des paquets comme ça, des floppy. On n'avait pas tellement d'Internet comme aujourd'hui pour aller chercher sur Google ce qui ne marchait pas, etc., etc. Donc, c'était vraiment compliqué. Et ça, c'était un problème à résoudre. Mais l'intuition la plus importante de Ian Maddox, c'est de faire de la collaboration dans la création de Debian. On avait déjà, à l'époque, du logiciel libre qui était développé d'une façon collaborative. Okay, c'était plutôt rare d'avoir une seule personne derrière un logiciel libre. Par contre, les distributions n'étaient pas la même chose. Donc, les distributions étaient faites normalement par une seule personne. On avait SLS, on avait du Red Hat, on avait à l'époque du Slackware, mais plus ou moins chaque distribution était faite par soit une seule personne, soit une seule entreprise. Donc, l'idée, c'était de dire, bah, non, on ne peut pas passer à l'échelle comme ça. On a besoin des communautés derrière la distribution de logiciels. Et donc, Debian est en gros la première distribution collaborative que vous trouvez de logiciels libres. Et bon, à l'époque, il était aussi supporté par la FSF. Après, bon, les chemins sont un peu partis dans des directions différentes. Mais c'était en collaboration avec la FSF dès le départ. Donc, pour donner une description de ce que c'est Debian, normalement, j'ai parlé trois choses séparées. Okay, donc, je parle d'abord d'un aspect technique, après d'un aspect social et après d'une communauté qu'il y a derrière. Donc, la première partie technique est un système d'exploitation. Okay. On pense normalement que Debian, c'est seulement un système d'exploitation. Il y a quelque chose de plus, mais ça, c'est quand même la partie la plus visible de Debian. Okay. Les produits principaux qui est fait par le projet Debian est une distribution, qui est la distribution Debian Stable, okay, qui a un release environ chaque 2 ans. Okay. Si vous regardez l'histoire statistique, quand même une moyenne très très stable sur les temps. Okay. Les caractéristiques techniques principales pour moi sont qu'il contient que du logiciel libre. Donc si vous téléchargez une image de Debian, par défaut, vous avez sur votre machine seulement du logiciel libre. Et ça pour moi est une caractéristique technique majeure. Okay. Et au-delà de ça, bah, vous avez plusieurs caractéristiques qui rendent Debian bien connu, notamment les supports matériels. Donc, vous pouvez installer Debian sur une douzaine d'architectures qui vont des microcomputers, donc des dispositifs embedded, jusqu'à des supercomputers, des serveurs de virtualisation, par exemple. Et au milieu, vous passez par les desktops et laptops habituels, vous passez pour, je ne sais pas, des PlayStation. Vous pouvez vraiment installer Debian sur une vaste gamme de plateformes matérielles. Okay. Et vous avez du support de sécurité pour à peu près 3 ans, 3 ans et demi, sur la totalité de l'archive. OK. Donc ça, c'est une caractéristique qu'on met pas en avance tellement par rapport à la concurrence. Okay. Mais dès que vous installez Debian, vous avez des supports sur chaque paquet qui se trouve dans l'archive, pas seulement sur une centaine de paquets qu'on considère comme principaux. Après, bon, il y a beaucoup de caractéristiques techniques comme nous sommes bien connus pour marcher sous du vieux hardware, pour avoir une documentation qui est plus ou moins consistante, qui se trouve toujours dans les mêmes endroits, etc., etc. Mais pour moi, un des aspects les plus intéressants est que nous sommes très larges en termes des logiciels que nous donnons à nos utilisateurs. Okay, nous sommes souvent mentionnés comme la plus grande collection organisée des logiciels libres en existence. Et là, vous voyez l'évolution des nombres, des numéros de paquets binaires et sources sur les temps. J'ai oublié la barre pour les dernières années, mais on est à quelque chose comme plus que, je pense, 37 000 paquets binaires. Donc, imaginez une liste de logiciels que vous pouvez installer avec quelque chose comme 37 000 paquets. Donc, c'est là la partie technique. Pour vous donner une idée, la dernière version de Debian Stable a eu un release en mai dernier, okay, donc au début de mai 2013. Okay. Et pour vous donner une idée de ce qui peut se passer pendant un cycle de release de Debian qui est à peu près 2 ans, bah, ça, c'est une liste de caractéristiques que nous avons ajoutées en Debian, la dernière version qu'on appelle Debian Wheezy. Okay. Donc, vous y trouvez des choses relativement techniques comme le support pour multi-arc, qui est quelque chose qui est fait pour vous permettre d'installer simplement le logiciel qui a été compilé pour des architectures différentes que la vôtre, okay, ou alors pour faire de la cross-compilation de façon plus simple. Donc, imaginez que vous voulez travailler sur un Debian, sur une architecture 64 bits, vous avez besoin de compiler des choses pour des architectures différentes, la multi-arc va vous aider avec ça. Plus proche des utilisateurs, Nous pensons qu'il y a beaucoup de risques pour la liberté d'un numérique dans les mondes du cloud. Okay. Donc nous avons cherché avec Debian Wheezy de vous rendre la vie plus simple okay, si vous devez vraiment utiliser du cloud. Alors, la première chose, c'est qu'on cherche de vous encourager à créer votre propre cloud pour la notion de contrôle dont je vous ai parlé tout à l'heure. Okay. Donc, dès que vous utilisez de la computation qui passe sur des ordinateurs que vous ne contrôlez pas, ben, vous êtes plus en contrôle de ce qui se passe avec vos données d'abord et avec les logiciels que vous utilisez. Donc, les premiers essais à faire pour nous, c'est de chercher d'avoir votre propre cloud à vous, sur un data center à vous, sur une machine à vous, ou peut-être en mutualisant des ressources avec d'autres entités. Donc, un Debian Wheezy, il est relativement simple. De toute manière, beaucoup plus simple que dans le passé de créer des clouds, par exemple, basés sur OpenStack ou sur Xen. Okay. Et par contre, nous comprenons qu'il y a des gens qui sont plus ou moins forcés à utiliser des clouds publics, style Amazon, style Google, etc. Et donc, à partir de Debian Wheezy, vous avez pas mal des images pour ces clouds-là, qui ont été créées par nous, que vous pouvez utiliser directement dans ces clouds. Okay. Donc, ce n'est pas la solution que je vous recommande, car vous ne contrôlez pas la pile complète d'exécution de logiciels dans les clouds, mais au moins, si vous êtes forcé à utiliser du cloud public, vous pouvez utiliser des images au dernier niveau qui ont été faites par Debian pour vous. Un changement très important est aussi dans les supports multimédia. Donc, beaucoup des codecs qui sont nécessaires pour faire du playback, du vidéo, etc., ont été intégrés dans l'archive. Donc, je sais que jusqu'ici, il y avait besoin presque toujours d'ajouter des dépôts externes pour, par exemple, pour regarder des VIX ou des choses pareilles. À partir de Wheezy, tout cela a été intégré dans l'histoire de Debian et vous rend les choses, permet la vie un peu plus simple. Typique dans un cycle de release de Debian, c'est d'ajouter des nouvelles architectures. Okay. Donc, par exemple, pendant Wheezy, nous avons ajouté les supports pour architecture d'un côté dans les côtés embedded, okay, dans des dispositifs embarqués comme ARMHF, ou alors, côté serveur haut de gamme, vous avez l'architecture S390. Qui sont typiquement des machines IBM pour faire de la virtualisation. Pour vous donner une idée des niveaux de diffusion des Debian, okay, au-delà des histoires des succès récents, comme par exemple le fait que la Station Spatiale Internationale utilise Debian comme système d'exploitation, okay, ou alors le fait que les clouds de Google a utilisé par défaut Debian comme système d'exploitation, pour vous donner des données un peu plus quantitatives sur la diffusion de Debian, bah, si vous regardez les marchés des serveurs web, vous trouvez que Debian est installé plus ou moins sur les 10%, un peu plus de 10% des serveurs web que vous trouvez. Donc dès que vous naviguez sur web, un site sur 10 que vous visitez utilise Debian directement. Okay. Si vous regardez par contre la partie du web qui utilise GNU Linux comme système d'exploitation, vous trouvez qu'un tiers des serveurs tournent sur Debian. Donc, nous sommes vraiment les leaders du marché web côté GNU Linux. Donc, ça, c'est l'objet technique. Okay. La deuxième partie des Debian, qui, je pense, est très importante de mentionner, est la partie sociale. Donc, Debian est aussi un projet. Alors, qu'est-ce que je veux dire avec un projet? C'est un ensemble d'individus qui ont un but partagé, qui est le but de créer les meilleurs systèmes d'exploitation entièrement libres possibles, qu'on arrive à créer. Ok. Ça, c'est la motivation qui garde ensemble les gens qui font Debian. Cela est plus ou moins codifié dans deux documents qui ne sont pas nés avec Debian, mais qui sont arrivés un peu plus tard, okay, qui sont d'un côté les contrats sociaux de Debian, okay, qui a un accord, pas entre Debian et les utilisateurs, mais entre Debian, c'est-à-dire les gens qui font Debian, donc les membres du projet Debian, et la communauté de logiciels libres au sens large. Okay. Et dans ces accords, vous trouvez les principes des bases de Debian. Donc, vous trouvez par exemple le fait que Debian va toujours rester complètement logiciel libre. Et pour respecter un principe pareil, vous avez besoin d'une définition du logiciel libre. Donc Debian s'est donné une définition du logiciel libre à lui, qui ensuite est devenue ce qu'aujourd'hui on appelle la open source definition. Donc cela descend directement de Debian. Vous trouvez l'intention de donner des changements à la communauté. Donc dès qu'on change quelque chose dans Debian, on cherche de travailler avec les upstream, dont nous avons parlé tout de suite, qui sont les gens qui développent le logiciel pour intégrer nos changements, pour faire bénéficier aussi les autres utilisateurs de nos changements. Okay. Et vous trouvez des points de comment on fait tout cela. Donc l'idée est qu'il y a beaucoup de transparence, Comme Debian, c'est principalement des bénévoles, okay, nous n'avons pas trop d'intérêt à cacher des choses. Donc il y a un principe très très fort de transparence sur ne pas cacher les problèmes, à la fois techniques et sociaux qui peuvent arriver dans les projets. Okay. Et vous trouvez comme dernier point une sorte de ligne guide, des guidelines pour les priorités du projet qui sont à la fois les besoins de nos utilisateurs, mais tempérés pour respecter toujours la définition des logiciels libres que nous nous sommes donnés. Donc ça, c'est un premier document. Et un deuxième document que vous retrouvez qui a aidé à définir les projets Debian est la Constitution. Alors, Constitution, c'est quoi? C'est plus ou moins des... C'est vraiment comme la Constitution d'un État, okay, dans lequel vous trouvez une définition de quelles sont les charges à l'intérieur du projet. Okay. Et en gros, c'est une sorte de démocratie, mais tempérée par comment normalement les communautés hackers marchent. Donc, il donne beaucoup de pouvoir aux individus qui bossent sur des tâches spécifiques, et je vais revenir sur ce point plus tard, okay, mais il a aussi une possibilité de décider ensemble, collectivement, démocratiquement, les décisions du projet. Et cela, donc, les projets, a été une motivation très très forte pour des gens pour s'engager dans les projets des biens. Donc, aujourd'hui, nous avons quelque chose comme 1000 développeurs un peu tous dans le monde. Alors là, j'imagine que vous n'avez pas trop regardé, mais la distribution, nous avons principalement des développeurs en Europe et aux États-Unis, okay, avec des communautés qui sont en train de grossir en Amérique du Sud principalement, en Asie, mais pas tellement en Chine. Par exemple, là, on n'a pas trop de développeurs. Et aussi, plus ou moins en Australie. Donc, plus ou moins partout où vous avez beaucoup de pénétration technologique, okay, vous avez beaucoup de développeurs Debian. Et cela ressemble un peu en général à la distribution de la participation au logiciel libre en général. Donc, pour ce qui concerne la France, comme nous sommes en France, il y a des statistiques sur la participation au projet Debian en France. Donc, d'après vous, quelle est la quantité des gens en France qui bossent sur Debian? Donc, combien de développeurs Debian nous avons en France? Quel est notre niveau en termes de participation à niveau mondial sur Debian? Est-ce que quelqu'un veut parier? Ben, toi, tu connais la réponse, je pense. Donc, est-ce que la France est le premier pays au monde qui participe à Debian, plutôt les 10e, plutôt les 20e? Est-ce que quelqu'un veut deviner? 3e, voilà, c'est quelqu'un qui peut-être connaissait déjà la réponse, sinon bravo. Donc, effectivement, la France est très, très, très bien placée en termes de participation au projet Debian. Il est en général aussi très bien placé en termes de participation au logiciel libre en général. Okay. Donc, si vous regardez les nombres, les numéros des développeurs Debian actifs, la France est la 3e et le 13e pays au monde. Après les États-Unis, bon, c'est beaucoup plus grand que chaque pays européen, donc ce n'est pas étonnant. Après l'Allemagne, qui depuis toujours est le pays en Europe qui est le plus actif en termes de participation au logiciel libre. Okay. Et après, vous trouvez la France. Par contre, si vous regardez, si vous faites la statistique sur combien de la participation par million d'habitants, là on tombe un peu plus en bas, d'accord? Vous trouvez la France qui est à la 11e position, après en gros la plupart des pays de nord d'Europe. Okay? Mais c'est quand même, Debian en France a toujours été très très active et connue. La troisième partie de Debian, pour terminer les tours de qu'est-ce que c'est Debian, c'est la communauté. Alors, autour de chaque projet logiciel libre qui marche relativement bien, vous avez une communauté qui est beaucoup plus large des gens qui font les projets, okay, qui est beaucoup plus large des les développeurs du projet. Ça, c'est le cas en Debian aussi. Donc, des caractéristiques fondamentales sont que la communauté Debian vous donne beaucoup de possibilités de participer. Donc, les niveaux techniques attendus sont relativement hauts, mais dès que vous avez des compétences à donner au projet, il est très très simple d'avoir un impact majeur sur les projets. Okay? Dès que vous montrez que vous avez une solution technique, en Debian, vous avez beaucoup de chances que votre solution technique va être adoptée et qui va un peu changer les cours de l'évolution technique du projet. Les types de communication que vous avez dans la communauté est un peu old style. Donc, la communication des biens est principalement sur des mailing lists et énormément sur des chats sur IRC. Il n'y a pas tellement de communautés dans les réseaux sociaux autour de Debian, car en fait, il n'y a pas tellement des réseaux sociaux qui sont libres. Okay? Trouver des réseaux sociaux qui respectent d'abord le fait qu'ils utilisent que des logiciels libres et après qui vous permettent de vous être maître des vos données, il y en a très très peu. Donc vous ne trouvez pas énormément des communautés Debian sur des réseaux sociaux. Un peu sur ce qui était identique à l'époque, qui aujourd'hui s'appelle Pampayo. Et normalement, les niveaux d'utilisateurs de Debian que vous trouvez, il a un niveau de compétences techniques assez élevé. Et cela est intéressant car ça veut dire normalement que si vous êtes un développeur de projet Debian, dès que vous allez recevoir un rapport de bug, très souvent, le rapport de bug arrive déjà avec un patch, avec un conseil sur comment les corriger. Et ça, c'est très intéressant par rapport à d'autres projets. Et après, bon, je ne vais pas entrer dans les détails de tout cela, mais les trois ingrédients dont je vous ai parlé, en gros, interagissent entre eux à travers des procédures qui sont très bien codifiées. Okay? Donc, c'est diagramme qui, là, vous avez plus ou moins une représentation des différents cycles de vie des logiciels à l'intérieur de Debian. Okay? La chose principale, dont peut-être vous avez déjà entendu parler, c'est les cycles de qualification du logiciel à l'intérieur de Debian. Okay? Vous avez les nouveaux logiciels qui entrent dans un produit de développement qui s'appelle Debian Unstable ou Debian Seed. Okay. Vous avez un cycle de développement où, en gros, on casse qu'est-ce qu'il y a en Unstable, pas mal. Okay. Donc, Unstable, ce n'est pas forcément la version de Debian que vous voulez utiliser sur votre machine principale. Il y a un cycle de qualification qui prévoit qu'après un paquet a été testé pour au moins 10 jours, pour 2 semaines, ça dépend, qu'il a été récompilé sur toutes les architectures supportées par Debian, qu'il n'a pas reçu des rapports de bugs d'une gravité telle qu'il nous pousse à ne les considérer pas prêts. Après tout cela, il migre automatiquement dans une autre release de Debian, encore en cours de développement, que nous appelons testing. Et périodiquement, nous faisons des freezes, donc nous allons bloquer la migration automatique des paquets des unstable vers testing, et nous préparons pour la release. Là, il y a encore une partie des qualifications, donc des stabilisations, des corrections de tous les bugs que nous considérons important pour faire un release, et dès que nous avons terminé tout cela, nous allons faire la production d'une nouvelle release qui s'appelle Debian Stable. Donc ça, c'est un cycle de qualification plutôt standard dans le logiciel en général. Okay. Et là, vous voyez tous les autres cycles de vie qu'il y a en Debian. Donc vous voyez les rôles des utilisateurs, par exemple, de nous faire des rapports de bugs pour faire des tests dans des vraies situations. Okay. Vous voyez les cycles des parcours des mises à jour de sécurité, qui ne doivent pas passer forcément par ces cycles-là, mais qui peuvent arriver indépendamment dans votre machine, etc. etc. Donc, ce que je veux vous dire ici avec cette transparence, c'est que c'est quand même un projet très complexe en termes de procédures, okay, et par contre, qui a travaillé beaucoup sur codifier ces procédures pour obtenir un produit stable et connu comme la distribution des miennes. Donc, voilà, ça c'était à peu près tout ce que je voulais vous dire sur une présentation générale des Debian. Maintenant, je vais rentrer un peu plus dans les spécifiques. Okay? Donc, les milieux du logiciel libre a changé énormément depuis 1993. À l'époque, si vous regardez les timelines de l'évolution des distributions Linux, c'est très intéressant. Donc, vous trouvez en gros qu'il y avait trois lignes de distribution à l'époque. Il y avait Debian, Slackware et Red Hat. Donc, c'était en gros les seules trois grandes distributions qu'on avait à l'époque. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, si vous regardez les index des distributions du logiciel libre qui existent, même si vous ne considérez pas seulement GNU Linux, mais même si vous regardez les BSD différents, vous avez énormément des distributions du logiciel libre. Donc, il faut savoir quelles sont les différences. Okay. Et vous trouvez des différences sur une quantité d'axes énormes. Vous avez des différences sur quel est l'utilisateur typique de la distribution. Vous avez par exemple des distributions qui sont conçues pour faire des choses très spécifiques, par exemple du multimédia. Okay. Vous avez des distributions qui sont faites pour faire du développement. Vous avez des différences énormes sur les cycles de vie. Est-ce que vous avez, par exemple, une release chaque 6 mois, chaque 2 ans? Est-ce que vous avez en gros une release chaque jour? Okay. Vous avez tous ces types de différences. Donc la question est, qu'est-ce qu'il y a de différent en Debian par rapport au reste? Donc ma réponse est basée sur 4 piliers qui, si on les considère dans leur totalité, pour moi, rendent Debian vraiment quelque chose d'unique. Donc je vais essayer de vous convaincre, mais quand même, chaque pilier vous montre des caractéristiques spécifiques à Debian qui c'est relativement difficile de trouver ailleurs. Donc les premiers points, c'est une sorte d'attitude à la qualité. Donc vous trouvez que les gens qui font Debian sont un peu sont très précis, ils ont une sorte d'obsession avec les détails. Okay. Alors, c'est pas toujours le cas avec chaque personne, mais c'est quand même un trait de la culture qui est très très présent à Debian. Okay. Et là, vous le retrouvez pas seulement comme attitude culturelle, mais vous le retrouvez aussi dans des outils que nous utilisons à l'interne, comme par exemple le fait que nous avons une vraie spécification de comment un paquet ça doit marcher. Donc, où un paquet doit mettre ses contenus pour être trouvé par l'utilisateur. Okay. Ou comment les paquets doivent se comporter lors de l'installation, de la mise à jour, de la suppression, même dans des cas très bizarres. Au-delà de ces spécifications, vous avez beaucoup des outils pour tester automatiquement, si vous voulez, pour torturer un peu les paquets et vérifier s'ils se comportent vraiment comme ils doivent. Okay. Par exemple, des outils pour chercher de les installer et les supprimer dans les conditions plus bizarres possibles et voir qu'ils continuent à comporter comme ils doivent. Vous trouvez cela dans l'obsession avec le fait qu'on doit, au moment de la release, être capable de recompiler chaque paquet dans l'archive. Qu'il n'y a pas des erreurs de compilation au moment de la release d'un paquet qui fait partie de la release Debian. Alors cela semble quelque chose qui est trivial, qui est vraiment la première démarche dont on a besoin, mais ce n'est pas le cas. Donc dans beaucoup de nos concurrents, les jours de la release, si vous essayez de recompiler chaque paquet qui se trouve dans la distribution, ben vous n'y arrivez pas. Et pour moi, cela est vraiment un point important de liberté, car si vous n'êtes même pas capable de compiler un paquet qui se trouve dans la distribution, ben c'est très difficile de faire des changements et modifier les logiciels pour se comporter comme vous voulez. Vous les trouvez aussi dans le fait que, normalement, les mainteneurs des paquets en Debian sont des experts du logiciel qu'ils maintiennent. Okay. Donc, ce ne sont pas seulement des personnes qui sont capables de faire des paquets. Normalement, ils sont aussi des experts sur les logiciels dont ils sont responsables. Dans la salle, vous avez les mainteneurs Debian qui s'occupent du CAMEL. C'est des gens que je connais comme des gens qui connaissent les langages de programmation, qui sont capables de modifier les compilateurs si nécessaire. Okay. Donc, cela veut dire que dès que vous allez recevoir, envoyer un rapport de bug en Debian, vous trouvez quelqu'un qui peut vous donner en sorte de support qui est bien plus grand que quelqu'un qui peut seulement envoyer les bugs aux auteurs upstream et attendre une réponse. Okay. Donc cela pour moi est très important et ça fait partie aussi de cette obsession des qualités qu'on retrouve en Debian. Et pour moi, la dernière chose, on les retrouve aussi dans le fait que les standards des qualités que nous cherchons dans chaque paquet sont les mêmes pour chaque paquet dans l'archive. Nous n'avons pas des paquets des premières classes et des deuxièmes classes. Les attentes de qualité sont les mêmes sur chaque paquet dans l'archive. Donc, premier point pour moi qui rend Debian quelque chose de relativement unique, c'est cette obsession avec la qualité. Deuxième point, c'est une autre obsession, nous sommes un peu tarés, Debian, c'est une obsession avec les libertés, dans le sens du logiciel libre. Et là, vous les trouvez dans plusieurs aspects du projet. D'abord, Debian n'est pas seulement un acteur technique du logiciel libre. Est un acteur qui est très très politique. Donc si par exemple vous voulez savoir est-ce qu'une licence spécifique est considérée libre, est-ce qu'on peut dire qu'un logiciel dont on a en release sur une licence spécifique, on peut l'appeler logiciel libre ou pas? Alors en gros dans les mondes vous avez trois acteurs et vous allez voir qu'est-ce que les trois acteurs disent de la licence. Alors le premier acteur est la Free Software Foundation, le deuxième acteur est la Open Source Initiative et le troisième acteur est Debian. Donc Debian a un rôle aussi important dans définir qu'est-ce que c'est le logiciel libre en général, au-delà des détails techniques. Deuxième aspect, vous trouvez l'obsession de Debian avec la liberté dans notre infrastructure. Donc je ne sais pas si vous connaissez les mots anglais « dog fooding », ça veut dire que d'abord, notre infrastructure qui est quand même très grande, nous avons quelque chose comme 120 serveurs autour du monde, sans compter les mirrors pour distribuer les contenus. Okay. Tout cela est basé sur Debian, tout cela est du logiciel libre, soit développé par nous-mêmes, soit adopté et en collaboration avec d'autres projets. Personne en Debian ne pourrait accepter d'utiliser, je ne sais pas, un backtracking system qui n'est pas libre ou un archive, une base de données non libre pour faire Debian. Okay. Et je pense que cela est très important. Car montre que nous sommes cohérents avec les idéaux du logiciel libre, pas seulement pour ce que nous donnons aux utilisateurs, mais aussi sur ce que nous utilisons nous-mêmes. Et en gros, c'est là, je pense, que dans les 20 ans qui sont écoulés depuis la création du projet, a mis une barre très très haute pour qui se va se définir un supporteur de logiciel libre. Donc nous sommes une sorte de référence pour comprendre est-ce que je suis vraiment un libriste, disons, est-ce que je suis vraiment en train d'utiliser le logiciel libre ou pas. On est utilisé comme point de repère pour répondre à ces questions. Donc deuxième point, obsession avec les libertés. Troisième point, et je trouve que c'est de plus en plus important, l'indépendance. Alors, ça veut dire quoi indépendance? Qui, en gros, vous ne pouvez pas dire bah, Debian, c'est la boîte Toto. Si vous regardez les autres distributions plus connues que vous trouvez sur les marchés, en gros, chaque distribution, vous pouvez soit dire qu'elle a été créée par une entreprise spécifique, soit dire que leur infrastructure est complètement supportée seulement par une boîte spécifique. Okay? Alors, c'est très bien qu'il y a des boîtes qui veulent supporter le logiciel libre, je ne dis pas non, mais Debian est quand même relativement unique sur le fait que nous avons des donations qui viennent de beaucoup de boîtes différentes, de beaucoup de personnes, des individus, des supporters. Okay? Même chose pour l'infrastructure. Et tout le reste est du travail, donc de la gift economy, donc une économie d'échange entre les membres du projet et les utilisateurs. Okay? Et pour moi, cela est vraiment très très important, car en gros, il vous donne la garantie que les choix techniques ou politiques que nous faisons en Debian ne sont pas guidés par des raisons économiques, par des raisons d'intérêts commerciaux stratégiques d'une boîte spécifique. Alors cela est quand même quelque chose qui est très difficile à trouver dans notre projet. Donc troisième point pour moi, c'est l'indépendance. Les quatrième et dernier point, c'est comment nous prenons des décisions sur quoi faire dans les projets, à la fois techniques et politiques. Alors, en gros, si vous regardez dans la constitution de Debian, vous retrouvez deux points qui j'ai appelé dans les années démocratie d'un côté et douocratie. Donc, une cratie du fer. Okay? Donc, ça veut dire quoi? Donc, le premier aspect est les mécanismes que nous utilisons par défaut pour prendre des décisions techniques en Debian. Donc, en gros, s'il y a quelqu'un qui est responsable d'une tâche technique spécifique, dès qu'il continue à faire ses tâches et dès qu'il continue à respecter les standards de qualité qui nous nous sommes donnés tous, okay, bah personne ne peut lui dire comment faire son boulot. Si vous voulez aller voir quelqu'un et lui dire comment il doit faire son boulot, vous devez aussi être prêt à faire les boulots à sa place. Okay? Et c'est là une sorte de méritocratie, mais elle est beaucoup plus. Car dans une méritocratie, vous pouvez avoir quelqu'un qui garde un état très important dans une communauté par les choses qu'il a fait dans le passé. Dans ce que j'appelle duocratie, si ce n'est pas le cas, pour avoir un état important à l'intérieur de la communauté, il faut que vous continuez à faire des choses avec un bon niveau de qualité et vous continuez à être respecté pour votre boulot par les autres membres de la communauté. Alors cela, nous l'utilisons principalement comme défaut et pour les choix techniques, mais si nécessaire, nous avons des mécanismes démocratique pour prendre des décisions plus larges qui concernent toute la vie du projet. Par exemple, ça peut être des décisions politiques sous thème des politiques de logiciels libres, ça peut être des décisions philosophiques, par exemple, sur comment on devient membre du projet Debian, okay, une sorte de gouvernance du projet. Alors, c'est là que nous pouvons le faire avec un vote parmi tous les membres du projet. Donc, il y a un millier de personnes dont je vais vous parler tout de suite. Tout à l'heure. Donc, c'est quelque chose que nous utilisons très, très rarement, seulement quand les restes ne marchent pas, seulement quand on n'arrive pas techniquement à compléter quelque chose. Okay? Ou alors, il est utilisé aussi périodiquement pour l'élection du Debian Project Leader, qui est un peu les représentants du projet Debian face à d'autres acteurs du logiciel libre. Et c'est là, et surtout l'ordre, pour moi, est très important. Donc, ça veut dire que la réputation que vous avez en Debian est liée forcément au travail que j'en fais. Okay? Ça ne descend pas d'autres raisons, comme par exemple l'accès à moyennes qui sont utilisées par les projets. Donc, ce n'est pas que quelqu'un peut, seulement avec l'argent, acheter un rôle d'importance à l'intérieur du projet. Ce n'est pas que quelqu'un, avec des donations de matériel ou des temps de travail des employés, peut gagner un rôle d'importance en Debian. Okay. Donc, encore une fois, c'est un aspect de décision et indépendance de ces décisions vis-à-vis des intérêts commerciaux. Donc, voilà, ça c'est pour moi les choses qui rendent des biens uniques. Et après, il y a un autre aspect sur lequel je vais passer un peu de temps, qui est les rôles des Debian dans l'écosystème du logiciel libre au sens large. Okay. Donc Debian est une distribution, mais a un impact, je pense, sur comment aujourd'hui nous allons distribuer les logiciels aux utilisateurs. Alors cela passe pour la notion des distributions dérivées. Okay. Donc vous avez peut-être, j'imagine pas mal d'entre vous ont déjà entendu parler de la définition du logiciel libre qui est donnée par la Free Software Foundation. Okay. Juste pour rappel, cette définition prévoit qu'on considère libre un logiciel qui offre 4 libertés aux utilisateurs. Et là, il y a un couac relativement typique, il n'est pas le logiciel lui-même qui est libre. On appelle un logiciel libre s'il garantit à son utilisateur un certain nombre de libertés. Okay? Donc la liberté principale, c'est ce qu'on appelle la liberté zéro, est la liberté d'exécuter un logiciel par n'importe quel besoin, okay? Même s'il ne correspond pas à vos croyances éthiques, même pour faire la guerre. Okay? On a un logiciel libre seulement si on peut l'utiliser pour n'importe quelle finalité. Comme deuxième liberté, vous avez la liberté d'étudier comment un logiciel marche. Okay? C'est-à-dire, vous avez besoin de pouvoir regarder qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, les codes sources d'un logiciel. Et après, vous avez deux libertés qui sont liées à la possibilité de redistribuer des copies des logiciels. D'un côté, la liberté de redistribuer des copies identiques de ce logiciel, et de l'autre côté, de redistribuer des copies que vous avez modifiées d'un logiciel en question. Okay? Alors, c'est là la définition du logiciel libre en général. Ce qui est intéressant, c'est que si vous appliquez les deux dernières libertés, pas seulement à un paquet logiciel, pas seulement à un logiciel individuel, mais si vous les appliquez à une distribution dans sa totalité, vous allez obtenir ce qu'on appelle une distribution dérivée. Alors, comment vous faites cela? Alors, ce n'est pas simple, mais on peut les capturer dans une recette qui est relativement courte. Alors, vous partez dans distribution souche, Debian, okay. Vous prenez tous les paquets qui existent. Déjà, vous pouvez les redistribuer comme ils sont. Okay. Vous ajoutez d'autres paquets en plus qui vous intéressent, qui ne faisaient pas partie de la distribution d'origine. Okay. Et après, vous récompilez les paquets en question, si vous voulez faire une distribution ou c'est vous qui compilez les paquets pour les utilisateurs. Potentiellement, vous modifiez des paquets et vous ajoutez des patchs. Okay. Et périodiquement, vous synchronisez. Alors, synchroniser, ça veut dire quoi? Ben, normalement, ça veut dire regarder ce que la distribution d'origine a fait et intégrer les changements. Okay. Donc, si vous faites cela, vous obtenez une nouvelle distribution qui nous appelons une distribution dérivée. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la façon de faire des distributions dérivées a vraiment changé les façons de construire des distributions. Okay? Car si on fait ça bien, c'est vraiment une situation gagne-gagne. Car en fait, vous pouvez partir d'une distribution qui existe et bénéficier de tous les travaux qui ont été déjà faits dans cette distribution. Okay. Mais vous pouvez la personnaliser pour des besoins spécifiques, qui peut-être sont des besoins qui n'étaient pas tellement supportés par la distribution d'origine. Donc, les cas intéressants est que Debian a été utilisé comme base par une quantité énorme de distributions dérivées. Alors, si vous vous souvenez les numéros que j'avais notés dans les transparents sur les distributions qui existent, il y en a à peu près 300 distributions vivantes de logiciels libres. Okay. Et à peu près la moitié, 140, sont basées sur Debian, soit directement, soit transitivement. C'est énorme. C'est-à-dire que Debian est à la base de presque la moitié des manières différentes que nous avons de donner du logiciel libre aux gens. Alors pourquoi c'est le cas? Pourquoi Debian n'est pas d'autres distributions? Alors on ne sait pas, on n'a pas des sondages qui nous donnent la réponse de pourquoi les concepteurs ont choisi Debian. Ma réponse est que d'un côté, les gens peuvent déjà bénéficier du boulot des qualités et des contrôles des licences que nous faisons en Debian. Donc, avant d'intégrer un logiciel en Debian, il y a quand même un travail très important, des contrôles minimales des qualités pour voir est-ce qu'on peut supporter en termes de sécurité ces logiciels pour 5 ans. Okay. Des moments dans l'introduction, plus 2 ans de développement, plus 3 ans ou 3 ans et demi de support de sécurité. Si la réponse est non, très probablement le logiciel ne va pas être accepté en Debian. Et d'autre côté, nous devons vérifier que le logiciel en question est vraiment du logiciel libre. Et là, il y a vraiment les mannequins qui regardent les licences qui s'appliquent à chaque fichier qui se trouve dans le logiciel et ils vérifient si la licence est compatible avec la définition des logiciels libres que Debian s'est donné. Okay. Donc, c'est là du boulot qui est déjà fait en Debian. Donc, si vous faites confiance à Debian et à le boulot qui a été fait en Debian sur ces points, bah, vous l'évitez de devoir les refaire vous-même. Après, bon, c'est très connu pour sa stabilité et solidité. Donc, encore une fois, si vous voulez construire quelque chose, c'est mieux de les baser sur quelque chose de stable que sur quelque chose qui n'est pas stable du tout. Il y a une quantité de paquets énorme. Donc, la probabilité que vous devez ajouter des choses qui n'existent encore et qui doivent être repackagées est relativement faible. Okay. Et finalement, dernier point, c'est que bah, Debian n'est pas pensé pour être customisé pour des besoins spécifiques. Donc, il y a une sorte de motto informel que nous utilisons en Debian, que c'est des Universal Operating System, des systèmes d'exploitation universels. Et cela, pour nous, veut dire qu'on ne cherche pas trop de les personnaliser pour des besoins spécifiques. On cherche d'être les plus général possible pour beaucoup de cas d'usage différents. Donc, si vous voulez faire une distribution de dérivée qui est spécialisée pour un besoin spécifique, c'est beaucoup mieux de partir de quelque chose de générique que de partir de quelque chose qui a été déjà spécifié pour des besoins peut-être en contraste avec votre but. Okay. Donc, c'est là pour moi sont les raisons qui ont poussé Debian à être en base de distributions de dérivées énormes. Un exemple que peut-être vous avez déjà croisé dans votre vie informatique, c'est une distribution relativement méconnue, okay, qui s'appelle Ubuntu. Il a été créé en 2004, donc il y a presque 10 ans, par une boîte qui s'appelle Canonical. Et à l'époque, il était spécifiquement, il ciblait spécifiquement les desktops, okay, les desktops, les mondes bureautiques en général, ok. Il est vraiment populaire. Donc, on estime aujourd'hui qu'il c'est certainement la distribution des GNU Linux la plus connue au monde. Okay. Nous n'avons pas des données, car le logiciel libre, vous savez, vous pouvez les copier librement. Donc, ce n'est pas évident de savoir combien d'installations de logiciels libres vous avez dans le monde. Si nous regardons des données très, très simples, comme les soumissions à un service qui s'appelle Popularity Contest, qui, en gros, il nous dit quels sont les paquets installés sur les machines des gens qui ont accepté de nous les communiquer. Okay. Là, vous voyez que la base d'installation de Debian est au moins 20 fois, la base d'installation de Ubuntu est au moins 20 fois la base d'installation de Debian. Donc, c'est quand même énorme. Okay. Et par contre, il a des caractéristiques un peu différentes de Debian. Par exemple, il est coupé en deux parties. Donc, vous avez une partie main, une partie universe, avec des niveaux de support très différents en Ubuntu. Et la partie main est principalement développée par Canonical et la partie universe est principalement développée par la communauté. Alors, je dis principalement car il n'y a pas une corrélation si forte que ça, mais il n'est pas net la différence, mais la corrélation est quand même importante. Et si vous regardez à l'intérieur des Ubuntu, vous trouvez un breakdown un peu comme je l'ai montré dans ces transparents. Alors ça sont des données de janvier 2013, mais ils n'ont pas bougé énormément dans les derniers 3-4 ans. Donc, je considère qu'ils n'ont pas bougé non plus dans les derniers 9 mois. Alors, là-dedans, vous voyez qu'on part de la masse des logiciels upstream qui sont créés ni par Debian ni par Ubuntu. Okay. Et là, vous avez plus ou moins les 80% des Ubuntu qui est formé par des paquets Debian qui ne sont pas modifiés. Donc, ce sont des paquets qui ont été récompilés dans Ubuntu, mais qui viennent sans aucun changement des Debian. Après, vous avez presque 10%, 12% qui sont des paquets qui viennent de Debian et qui ont été patchés par Ubuntu avant de devenir partie de leur distribution. Et finalement, vous avez un 10% des paquets qui n'existent pas en Debian, qui existent seulement en Ubuntu. Okay. Et la plupart de ces paquets-là sont des paquets et logiciels qui ont été développés par Canonical lui-même. Okay. Donc, et ça, c'est un exemple intéressant car nous estimons que Ubuntu, c'est quand même la distribution de dérivée des Debian la plus customisée. Et donc, dans les autres distributions de dérivées qui existent, vous avez beaucoup moins de changements que ça. Okay? Donc, cela pour moi est très, très intéressant, car ça veut dire que la valeur des Debian n'est pas seulement dans les produits logiciels que nous donnons directement aux gens, n'est pas seulement dans l'image des Debian que vous avez installée sur votre laptop. Okay. Il est beaucoup plus que ça. Il est toute une série de distributions de dérivées qui sont basées transitivement ou directement sur Debian et qui bénéficient de notre travail. Et là, pour moi, c'est vraiment super intéressant car dès que nous faisons des changements en Debian, on bénéficie en public, qui est quand même énorme. Donc, ce qui est en train de se passer, je pense, est que la façon des distributions de logiciels, et là je parle des machines desktop, les téléphones c'est un discours à part, mais là je parle des machines desktop et des serveurs, donc la façon de distribuer les logiciels libres est en train de changer, il a déjà changé énormément. Donc, à une époque, il était plus ou moins comme dans cette transparence. C'était la représentation des intermédiaires que je vous ai montré à le début. Okay. Vous aviez d'un côté les auteurs d'un logiciel, d'autre côté les utilisateurs. Au milieu, entre les deux, vous avez les distributions. Et vous avez des flots différents. Donc, d'un côté, vous avez un flot des logiciels et des bugs fixes qui part des développeurs upstream et qui descend aux utilisateurs à travers le distributeur. Et dans l'autre direction, vous avez un flot opposé des rapports des bugs, par exemple, et des patchs, éventuellement. Et maintenant, la chose est beaucoup plus compliquée. Donc, vous avez toute une série d'intermédiaires, des stakeholders, comme on dirait en anglais, qui sont des distributions intermédiaires, ou des distributions dérivées. Donc, à la limite, si vous voulez, vous pouvez considérer une première couche de distribution comme Debian, une deuxième couche de distribution comme Ubuntu, et une troisième couche de distribution qui sont à leur tour basées sur Ubuntu, et on continue comme ça. Et c'est là, je trouve, qu'il est vraiment magnifique, car il y a énormément d'opportunités. Car chaque fois que vous ajoutez un distributeur intermédiaire qui customise une distribution pour un besoin spécifique, vous arrivez potentiellement à un nouveau public. Nous avons énormément des contributeurs Debian, par exemple, qui viennent d'Ubuntu. Ce sont des gens qui ont découvert les logiciels libres grâce à Ubuntu, qui, grâce à Ubuntu, découvrent qu'est-ce que c'est Debian, okay, car, évidemment, nos habiletés, nos intérêts à faire du marketing, apparemment, n'est pas au niveau de celle d'une entreprise qui a quand même un intérêt commercial à le faire. Très bien. Donc, grâce à une distribution de dérivés, il arrive à découvrir le logiciel libre et Debian, et il remonte et il vient contribuer chez nous. Et cela est très, très intéressant. Donc, chaque fois que vous ajoutez un utilisateur au logiciel libre, potentiellement, vous améliorez la qualité, car vous avez des yeux en plus qui regardent les codes, et potentiellement, vous trouvez des contributeurs. Et cela est très, très bien. Mais la question est comment on peut faire rendre tout cela quelque chose de permanent, donc quelque chose qui reste dans les temps, durable. Alors pour nous, et ça c'est une vision qui Debian a cherché de promouvoir pendant les derniers 4 ou 5 ans au moins, okay. Alors, la façon de rendre tout ça durable est que chacun, à chaque étape dans la chaîne de distribution, s'occupe d'un côté d'expliquer d'où les choses viennent, d'où les logiciels viennent, et d'autre côté s'occupe de travailler avec upstream, donc la partie à sa gauche dans la chaîne de distribution, okay, qui s'engage à travailler avec ces upstream pour intégrer les changements et pour faire bénéficier de ces changements tous les utilisateurs du logiciel. Okay. Et ça, pour nous, est la manière de rendre tout cela durable et pour faire en sorte que chaque fois que vous ajoutez un changement dans cette chaîne de distribution, les changements vont bénéficier tout le monde. Okay, donc pour nous, c'est là vraiment la vision qu'il faut avoir en tête pour faire marcher la chaîne de distribution de logiciels libres dans sa totalité. Donc voilà, donc, pour terminer mon exposé sur Debian, j'ai des informations si vous vous êtes intéressé à Debian dans le passé ou maintenant grâce à cet exposé. Donc je vous donne quelques tuyaux sur comment on peut contribuer à Debian à tout niveau d'engagement. Donc, la première partie, qui est très importante, mais pour moi c'est tout à fait la moins intéressante, c'est Debian comme projet, il existe dans les mondes réels. Okay. Donc, il y a des principes, des bases du logiciel libre et des participations, mais nous existons dans les mondes réels. Nous avons une infrastructure qui est coûteuse en termes d'argent, en termes de machines, en termes de services qui existent autour de cette infrastructure. Donc, et nous avons des donations pour... S'il vous plaît. Merci. Donc, nous avons l'infrastructure qui est payée entièrement grâce à des donations. Et nous avons aussi beaucoup de rencontres de développeurs qui sont des bénévoles, mais qui se trouvent ensemble pour bosser ensemble un week-end ou une semaine pour une conférence. Et tout cela est sponsorisé grâce à des donations des bénévoles. Donc, c'est là toute une possibilité. Ce que je trouve plus intéressant est de contribuer avec vos habiletés au développement du Debian. Okay? Alors, vous pouvez les faire à différents niveaux des habiletés et des intérêts. Donc, un premier niveau pour moi, c'est tout simplement d'utiliser Debian. Donc, les contributions commencent par l'usage d'un logiciel libre. Et les deuxièmes étapes juste après, est celle de faire l'étape de faire des rapports de bugs. Okay? Faire un bon rapport de bugs, il est beaucoup moins simple que vous imaginez. Donc, travailler avec les développeurs pour être sûr qu'il lui est capable de reproduire l'anomalie que vous avez découvert. Okay? Et cela est vraiment l'étape la plus importante. Si vous faites cela, si vous faites déjà cela, il est une contribution très très importante pour un projet comme Debian et en général pour n'importe quel projet logiciel libre. Donc, ça est important. Deuxième étape, en gros, c'est de suivre les paquets qui vous intéressent. Donc, il y a une interface qui s'appelle les Package Tracking System, qui du coup va bientôt changer et devenir beaucoup plus jolie, mais qui est disponible à cette adresse-là, packages.qa.debian.org. Et là, une fois que vous avez un logiciel qui vous intéresse, vous pouvez suivre l'évolution de ces logiciels en Debian. Vous pouvez vous inscrire pour recevoir des notifications dès que le logiciel en question change à l'intérieur de Debian. Okay. Par exemple, vous pouvez avoir des mails dès que vous avez une nouvelle version, dès qu'il y a des récompilations. Et surtout, vous pouvez demander de recevoir des mails dès qu'il y a des rapports de bugs sur ces logiciels. Et cela est très utile, car une fois que vous voyez un bug report qui arrive, vous pouvez par exemple chercher de reproduire les bugs vous-même. Et si vous n'arrivez pas à les reproduire, ou si vous arrivez à les reproduire, vous pouvez les communiquer à la personne en Debian qui est responsable de ces paquets. Et cela est déjà très très utile. Ok. Et une fois que vous vous sentez à l'aise, surtout si vous êtes intéressé au développement et à la programmation, vous allez chercher de dire, bah voilà, moi j'ai produit un patch qui résout les problèmes. Et vous l'envoyez au mainteneur. Donc là, c'est un niveau d'engagement très très faible. En gros, vous devez simplement communiquer par mail avec d'autres personnes qui ont trouvé un problème et les mainteneurs. Et c'est déjà super utile pour Debian. Deuxième possibilité. Regardez non seulement les paquets qui vous intéressent, les logiciels qui vous intéressent, mais les logiciels qui sont en Debian et qui ont des problèmes. Alors typiquement, ça peut être des paquets qui, ils avaient un mainteneur, ils avaient une personne qui était responsable de s'en occuper, mais cette personne n'a plus l'énergie pour les faire, okay, ou simplement nous avons perdu les contacts avec cette personne. Ça arrive. Okay. Donc, une manière pour découvrir cela est d'installer un paquet qui s'appelle « How can I help ?». Donc, vous êtes sur Debian, vous faites apt-get install ou l'interface des packaging que vous préférez, et vous installez un paquet qui s'appelle How Can I Help. Alors, ce paquet-là, il va faire quoi? Chaque fois que vous changez un paquet installé, chaque fois que vous faites une mise à jour, il va vérifier s'il y a des nouveaux paquets qui ont des problèmes. Par exemple, des paquets qui n'ont plus un mainteneur, ou des paquets qui vont bientôt être virés de la version de développement de Debian, etc., etc. Et ça est très intéressant car ce sont des paquets que vous avez installés sur votre machine, donc que vous utilisez. Vous avez besoin de ces paquets, okay, mais qu'ils ont des problèmes en Debian. Donc, très probablement, vous avez un intérêt à donner un coup de main pour résoudre les problèmes. Okay. Donc, c'est là et là une chose que je vous conseille si vous êtes intéressé à contribuer à Debian. Après, si vous pensez vraiment que vous êtes intéressé à faire du packaging à Debian, cela veut dire prendre la charge de maintenir un logiciel en Debian sur le long temps. Okay. Donc, faire du packaging en Debian n'est pas seulement dire j'ai fait un paquet, je l'envoie vers la distro Debian et après je me barre. Non, c'est beaucoup plus. C'est s'engager à être responsable d'un paquet sur au moins un temps raisonnable. Okay. Et pour faire cela, il y a un tutoriel qui est très très bien, qui est le Debian Packaging Tutorial, qui existe en plusieurs langues, dont les français. Okay. Et là, il y a une sorte de cours sur, ça peut être une demi-journée ou une journée entière, si vous voulez suivre les exos. Okay. Et sous forme des cours, vous pouvez apprendre à packager. Donc, c'est vraiment bien fait. Je vous les conseille si vous pensez d'être intéressé au packaging. Une autre possibilité, une fois que vous êtes prêt à faire des paquets, une fois que vous avez compris que la chose vous intéresse, si la chose vous intéresse, bien évidemment, je vous conseille de commencer à travailler avec des équipes qui existent en Debian. Alors, il y a une page sur les wikis de Debian qui s'appelle Teams, qui est une liste des équipes qui existent en Debian, et notamment à l'adresse, dans la section Packaging Teams, sur cette page, vous trouvez toutes les équipes qui s'occupent des paquets d'une catégorie spécifique. Alors, ça peut être typiquement tous les paquets qui sont écrits dans un langage de programmation, par exemple Python. Ou alors, ça peut être des areas thématiques, par exemple des jeux. Ou alors, ça peut être des logiciels géographiques. Donc, ce sont des paquets qui sont un certain nombre, qui sont tous liés par un intérêt thématique, et vous trouvez des gens qui travaillent ensemble. Donc cela est vraiment excellent pour commencer à travailler en équipe à l'intérieur du projet Debian. Si par contre, faire des paquets, ce n'est pas une chose qui vous intéresse, c'est normal, nous n'avons pas tous les mêmes envies. Si par contre, vous voulez faire du développement logiciel, Debian a énormément besoin des développeurs au sens large, pas seulement des gens qui font des paquets. Comme je vous disais tout à l'heure, l'infrastructure que nous utilisons pour faire Debian est quelque chose que nous avons développé nous-mêmes. Okay. Donc, les systèmes de gestion des bugs est développé à l'interne. Les systèmes de scheduling pour récompiler les paquets, tout comme la toolchain pour récompiler les paquets, est complètement développé à l'interne. Parfois en collaboration avec d'autres projets, mais c'est quand même du logiciel libre développé par nous-mêmes. Donc, cela, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Vous pouvez nous aider avec l'infrastructure et ne pas travailler sur des paquets si la chose ne vous intéresse pas. Alors, comment les faire ? En gros, la plupart des services que nous utilisons dans notre infrastructure correspondent à des pages web. Donc, vous avez des pages web qui montrent l'état d'un service, par exemple l'état de récompilation des paquets, ou alors les source codes de tous Debian, qui c'est un service que j'ai mis en ligne il y a quelques temps. Donc, normalement, vous allez sur la page web de ce service, vous regardez en bas, dans les footers, ou alors dans une page About, et typiquement, vous trouvez des liens vers les codes sources, donc vers les repositories des codes sources de ces services. Normalement, à l'intérieur de ces codes sources, vous trouvez des instructions sur comment les démarrer la première fois. Et comme ça, vous êtes autonome, vous pouvez commencer à y jouer avec et après suivre les besoins d'évolution du logiciel. Donc, cela est quelque chose de technique, il n'y a rien à voir avec faire des paquets. Ou alors, une partie très intéressante de Debian est une sorte d'expérience sociale dans laquelle nous cherchons de faire nous-mêmes aussi tout ce qui existe autour d'un projet de logiciel libre. Donc les aspects des communications, les aspects du journalisme autour de Debian, les traductions, la gestion du site web, les aspects légaux. Okay. Donc, tous ces types de choses qui, normalement, dans des projets qui ne sont pas indépendants et qui sont bien supportés dans des boîtes, sont faits par des boîtes. Okay. Chez nous, ce sont des choses que nous faisons nous-mêmes. Donc, n'importe quel type de compétences vous avez, si vous avez un intérêt autour du logiciel libre, très probablement, nous avons besoin de vos compétences. Okay. Donc, vous trouvez, par exemple, la gestion de traduction, vous trouvez des artistes, vous trouvez de la communication, vous trouvez la gestion des événements. Nous avons une conférence, chaque an, qui s'appelle DebConf, qui tourne autour du monde. Donc l'année passée a été en Suisse, il a été à New York, il a été en Bosnie, il a été en Espagne, il a été au Canada, au Brésil, en Argentine, au Mexique, il tourne autour du monde. C'est une conférence qui arrivait à entre 300 et 400 personnes chaque année, okay, qui est complètement organisée par nous-mêmes. Donc là, ce sont des compétences qui, a priori, n'ont pas beaucoup de choses à voir avec le logiciel libre. Okay. Ce sont des compétences de gestion d'événements. Okay. Des compétences de management, si vous voulez. Celles-là sont des compétences dont nous avons besoin. Ben, ça peut être de la gestion des vidéos. Nous avons une équipe vidéo qui fait les vidéos de DebConf depuis une dizaine d'années, qui après a été contactée par FOSDEM, qui sont la plus grande conférence de logiciels libres en Europe, pour faire les vidéos pour la conférence aussi. Donc ce sont tous des compétences développées à l'interne, qui sont utiles pour nous et normalement qui deviennent utiles aussi pour des autres. Si vous êtes intéressé dans ce type de choses, encore une fois, vous allez sur les wikis, sur la page Teams, okay, et vous trouvez les équipes qui s'occupent de ces choses, vous vous mettez en contact avec eux, et vous donnez votre disponibilité à travailler avec eux. Voilà, donc, une fois que vous avez commencé à travailler sur la partie de Debian qui vous intéresse le plus, vous pouvez considérer devenir membre du projet. Okay. Cela est quelque chose qui est possible pour n'importe quel type de contribution. Donc, nous avons des membres du projet Debian qui font des choses techniques dans le sens du développement du packaging. Nous avons aussi des membres du projet Debian qui s'occupent d'autres choses, les sites web, les traductions ou n'importe quelle activité parmi la liste que je vous ai donnée tout à l'heure. Okay. Donc pour les faire, il y a une procédure relativement rigoureuse, okay, qui normalement vous demande d'abord de vérifier qu'est-ce que vous avez fait dans les passés pour Debian. Donc en gros, on regarde les contributions que vous avez déjà données au projet pour voir si vous êtes un contributeur actif et si vous vous engagez à les faire dans le futur aussi. Et après, il y a en partie des vérifications de votre connaissance du logiciel libre pour être sûr que nous sommes d'accord sur les principes de base sur lesquels nous avons basé les projets Debian. Si vous voulez un conseil, donc pour résumer dans une ligne, regardez la liste des équipes qui existent en Debian, identifiez une chose, une area des contributions qui vous intéresse, commencez à suivre les communications de l'équipe en question. Normalement, c'est une mailing list et une chaîne sur IRC, et tout le reste, ça va venir après, automatiquement. Donc, dernier point, comme nous sommes en France, je vous signale aussi la présence d'une association qui s'occupe de la promotion des Debian en France. Okay. C'est une association qui va bientôt devenir des lois 1901, pour l'instant une association des lois alsaciennes. Okay. Il est actif, donc il a quelque chose comme 60 membres, et il est très actif dans beaucoup de domaines différents. Donc, par exemple, il fait de la production des goodies. Okay, ça peut être des t-shirts, ça peut être des bouffes, des chapeaux, etc., etc. Et il est très actif aussi dans l'organisation d'événements. Par exemple, Debian France a organisé en 2012 une mini-DebConf en France qui a vu la participation des 150 contributeurs Debian qui venaient d'une quantité énorme des pays. Donc, j'avais compté au moins 8 ou 9 pays différents européens, des gens qui ont participé à la mini-DebConf. Il va refaire la même chose en janvier ou février prochain, ici à Paris. La date n'est pas encore définie, mais ça va être plus ou moins janvier-février. Il organise la participation de Debian à des événements locaux, comme par exemple Solution Linux. Okay. Et récemment, il a aussi commencé à organiser des meet-up Debian, donc des rencontres très très informelles parmi des gens qui sont passionnés de Debian. Les premiers ont été le 16 octobre, donc cette semaine. Il y avait 40 personnes. Il était une ambiance très conviviale, je trouve, avec des exposés, avec des key signings, avec des pistes offertes par nos sponsors. Donc c'était vraiment bien. Si vous avez un intérêt Debian, je vous conseille de suivre France Debian Net et regarder quand sera les prochains meet-up Debian. Donc voilà. Si vous avez d'autres questions, bah, les ressources officielles sont les sites et les wikis Debian. Les social media, il n'y en a pas énormément, mais quelque chose, oui. Les mailing lists et les chaînes IRC sont des mécanismes de communication de base à l'intérieur de la communauté. Et sinon, bien sûr, je suis à disposition pour toute question. Merci.
Prendre quelques questions, si vous en avez.
Bonjour. Pourquoi est-ce que le noyau est tellement verrouillé une fois qu'une distribution a été stabilisée, en fait, une fois qu'elle passe de la freeze à la stable officielle, le noyau, il bouge plus, quoi. Enfin, la 3.6.32, je crois, enfin, le noyau 3.6.32, il s'est éternisé, alors qu'il y avait des bugs dedans qui ont été résolus dans la 3.6.37, par exemple, pour l'ARM, et on restait toujours 3.6.32. Pourquoi est-ce que c'est si...
Alors, la question et la réponse, en fait, je pense qu'ils ne sont pas spécifiques...
2.6.32, jouer, 2.6.32.
Oui, mais je pense que la question comme la réponse ne sont pas spécifiques au noyau. Donc, en général, dès qu'on a une release stable de Debian, à peu près tout est un peu verrouillé, comme tout vient de le dire. Et la raison est que dans les cycles de développement et de release dans distribution, tu as pas mal d'étapes de validation de la qualité de quelque chose et du fait que les autres composants marchent bien ensemble. Donc, si nous avons travaillé pour 2 ans avec des tests des utilisateurs sur les noyaux et sur tous les restes, faire un changement une fois qu'on a fait un release, c'est dangereux dans le sens qu'on a beaucoup moins de possibilités de les faire tester aux utilisateurs avant de faire un release. Okay. Et ce n'est pas évident de comprendre qu'est-ce qui peut se casser grâce à un bug fixe de quelque chose dans un logiciel. Pardon. Donc, en général, dans les cycles de vie d'un logiciel, libre, mais même dans le logiciel propriétaire. Tu as une phase de développement très active dans laquelle tu prends la liberté de changer ce que tu veux et donc aussi de corriger beaucoup de choses. Et une fois que tu as fait une release, tu cherches de minimiser les changements. Alors après, c'est pas s'y mettre la distinction. Bien sûr, si on trouve un bug de sécurité, on va les corriger. Mais on cherche toujours de minimiser les effets de bord qu'on ne veut pas avoir liés à chaque changement. Donc, dans les cas de noyaux spécifiques, nous, quand même, nous avons une équipe des gens qui s'occupent du noyau, qui s'occupent pas seulement du noyau pour nous, mais qui aussi maintenant du noyau stable upstream. Okay? Donc, il y a une version du noyau qui est faite justement pour durer dans les temps. Et la personne qui est responsable de ces noyaux upstream, c'est Ben Hatching, qui est aussi le mainteneur des biens du noyau. Donc, ils s'occupent des changements. Donc, il fait, par exemple, des backports. Dès qu'il y a un bug important à corriger, c'est lui, et plus en général l'équipe noyau du Debian, qui s'occupe de faire un backport du changement nécessaire pour l'intégrer dans la version du noyau du Debian. Mais il y a quand même une décision à prendre. Est-ce que les bugs en question sont suffisamment graves pour justifier les risques que je vais casser d'autres choses? Okay? Donc, c'est toujours ça la question. Alors, je comprends que pour les utilisateurs, parfois, la réponse doit être beaucoup plus libérale. Donc, on souhaite avoir beaucoup plus de changements plus tôt, mais il va toujours avec un risque de casser d'autres choses. Donc, ce que je te conseille, en termes très pratiques, c'est de regarder l'archive backports. Donc, il y a un Debian, backports.debian.org. Okay? C'est un service où, en fait, on vous offre des versions de logiciels récent par rapport à ce qu'il y a dans la distribution de Debian stable, okay, mais on vous dit qu'il y a quelques risques. Okay, on les a testés, il n'est pas à la distribution de développement, donc c'est nos logiciels qui ont été récompilés pour la version stable, mais qui ont, disons, on ne veut pas donner par défaut à tous les utilisateurs de Debian stable, surtout s'ils veulent être très safe, disons. Mais si tu souhaites un noyau qui est plus récent de ce qu'il y a dans la distribution stable, tu peux normalement en trouver un dans Backports. Donc ça, c'est au milieu. Donc disons que par défaut, nous cherchons de rester côté très conservatif. On cherche de toucher les moins possibles. Mais pour des utilisateurs qui sont intéressés d'avoir quelque chose de plus récent, il y a une solution qui est l'archive Backports.
Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Soyez pas timide.
Une des caractéristiques de Debian que vous avez dit, c'est que ça propose énormément de possibilités pour les utilisateurs. Est-ce que il n'y a pas un risque, il y en ait tellement que toutes les forces vives de Debian soient un peu dans trop de directions à la fois pour que ça puisse.
Je pense qu'en général, oui. Donc, on ne peut pas penser de supporter n'importe quel cas d'utilisation et d'être à la même manière adaptée à chaque besoin des utilisateurs différents. Donc c'est un choix. Nous avons fait les choix de ne pas chercher d'être trop customisé dans des directions spécifiques. Donc je suis conscient du fait qu'il y a certainement des besoins spécifiques qui ne sont pas trop forts à gérer. Donc je pense que oui, il y a un risque. Notre solution, c'est de permettre à des équipes à l'intérieur de Debian de créer des versions personnalisées de Debian que nous appelons Blends, donc Debian Pure Blends, qui donc, cherchent de customiser Debian pour des besoins spécifiques, mais qui travaillent énormément avec Debian pour réduire les différences. Donc si on découvre qu'il y a un besoin dans un cadre spécifique, ça peut être la science, ça peut être l'éducation, d'abord on cherche de pousser en Debian, proprement dit, les supports pour pouvoir généraliser les supports qu'il nous faut pour supporter ces besoins. Okay. Et après, tout d'à côté, nous avons une petite modification de Debian qui s'appelle une blend, okay, qui est personnalisée pour ses besoins. Mais bien évidemment, les communautés qui sont autour de ces customisations sont typiquement plus petites que la communauté autour de Debian au sens large. Mais le message que je pense qu'il est important là est que Debian, en fait, Debian, c'est que les contributeurs Debian veulent. Okay. Donc, aujourd'hui, la base des développeurs Debian il y a énormément des gens avec un background administrateur système. Donc, même si nous cherchons de faire quelque chose d'absolument générique, Debian a quand même une impostation qui est très très adaptée aux besoins des administrateurs système. Car la communauté qu'il y a derrière Debian a énormément ses backgrounds. Donc, si vous avez des intérêts à Debian qui viennent des communautés et des façons de penser un peu différentes, ce que je vous encourage à faire est de venir participer à Debian. Donc il y a énormément de possibilités de tirer des biens un peu plus d'un côté, un peu plus de l'autre, selon les gens qui forment la communauté.
Est-ce qu'il y a autre chose que les Debian, les dépôts non-free et contrib qui empêchent Debian d'être supporté par la FSF?
Alors là, c'est un gros débat sur lequel j'ai travaillé moi-même pas mal. Historiquement, les problèmes principaux qui ont empêché Debian d'être reconnu par la FSF comme distribution recommandée a été la présence des blobs non libres dans les noyaux qui étaient distribués par Debian. Alors, ces problèmes-là sont résolus depuis 2010. Et en fait, la FSF nous a fait un gros bravo pour avoir résolu les problèmes depuis la release des Squeeze, je pense que c'était. Donc, les problèmes principaux sont résolus. Ce qui reste, c'est, disons, une sorte de ligne qui n'est pas très nette entre est-ce que Debian fait de la promotion du logiciel non libre, est-ce qu'il fait Debian fait trop de la promotion du logiciel non libre. Pourquoi je dis de la promotion? Car en fait, dans les contrats sociaux Debian, il est écrit que Debian par défaut contient du logiciel libre, mais dans nos serveurs, côte à côte avec du logiciel libre, il y a aussi du logiciel non libre qui a été adapté pour marcher avec Debian. Okay. Ce n'est pas quelque chose qui est installé par défaut, c'est quelque chose que les utilisateurs doivent savoir qui existe, et pour les utiliser, vous devez en fait bidouiller vos configurations, ajouter les dépôts dont vous parlez, donc contrib et non-free, explicitement, pour avoir accès à ces logiciels. Donc, la question est-ce qu'on n'est pas en train de rendre trop simple l'usage des logiciels non-libres avec Debian? Alors, ma réponse personnelle, et que j'ai travaillé pas mal avec la FSF sur ces points, et que la réponse est non. Donc je pense qu'on ne peut pas convaincre les gens, on ne peut pas dire aux gens que le logiciel non libre n'existe pas. Le logiciel non libre existe, le logiciel propriétaire existe, et si quelqu'un a vraiment besoin du logiciel propriétaire pour son boulot, on va le trouver, on va trouver une façon de l'installer. Je pense que ce que nous devons faire est d'utiliser la distinction comme une opportunité pour expliquer aux gens qu'est-ce qui se passe. Donc je dois dire aux gens, ok, d'accord, tu as vraiment besoin d'un logiciel propriétaire pour faire marcher ta carte réseau. Je pense que pour nous, ça doit être une occasion pour dire, ok, le logiciel est là, tu peux l'utiliser, mais fais gaffe, on ne sait pas ce que les pilotes vont faire de ton trafic, et on ne peut pas te donner du support. Donc, moi, je pense que la situation actuelle de Debian est raisonnable. Il faut travailler sur la communication, car je suis certain qu'il on pourra trouver beaucoup de documentations sur les wiki Debian, ou dans les forums Debian, ou même sur la documentation officielle Debian, qui est un peu ambiguë sur ces points. Donc, ce que je pense qu'on doit faire est nous donner une ligne nette qui dit que chaque fois qu'on parle de logiciel non-free, on en profite pour discourager l'usage et pour expliquer aux gens quels sont les risques qu'ils vont prendre s'ils décident d'utiliser le logiciel propriétaire. Dès qu'on arrivera à avoir cette ligne de communication uniforme, je pense qu'il n'y aura pas de problème à être accepté comme une distribution recommandée par la FSF. Mais c'est du boulot, hein, car chacun, un Debian, est maître de comment il fait son travail, donc c'est vraiment du boulot de convaincre que cette ligne de communication est la bonne ligne.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Donc j'ajoute une remarque. Donc je sais que vous avez un key signing party GPG tout de suite. Alors moi je ne suis pas inscrit et je ne peux pas rester longtemps. Si par contre vous êtes intéressé à contribuer à Debian, normalement vous avez l'intérêt d'avoir un développeur Debian qui signe votre clé GPG. Alors dans la salle vous en avez pas mal, donc 1, 2 et 3. Donc si vous êtes intéressé à être lié au keyring de Debian, vous pouvez venir me voir avant que je parte pour une signature et après vous pouvez aller à Stéphane et Nicolas pour ce type de choses.
Ok, merci pour cette conférence.
Merci à vous pour l'invitation.